VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francis, 13h à Nouakchott, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Ebola en République démocratique du Congo décède dans la nuit de mardi à mercredi du deuxième cas d'Ebola détecté à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu et grande métropole d'environ 2 millions d'habitants dans l'est du pays à la frontière avec le Rwanda. C'est ce qu'ont annoncé les autorités congolaises aujourd'hui. Le malade confirmé d'Ebola à Goma est mort. Toutes les mesures pour couper la chaîne de contamination sont déjà prises, a déclaré Jean-Jacques Muyembe, le nouveau responsable nommé par la présidence congolaise pour coordonner la riposte contre l'épidémie. Selon le docteur Haruna Abedi, coordonnateur de la riposte anti-Ebola dans la province du Nord Kivu, le patient est arrivé au centre de traitement au 11e jour de sa maladie et son cas était sans espoir. Le centre de traitement n'est pas un mouroir, il faut amener le malade à temps, a souligné le docteur Haruna Abedi en exhortant la population à ne pas cacher les cas suspects. Le premier cas d'Ebola à Goma a été enregistré il y a 16 jours et l'épidémie a déjà fait 1803 morts depuis la confirmation de la présence de l'Ebola dans les régions rurales du Nord Kivu et de l'Ituri dans l'est du pays. RDC toujours, la plateforme politique d'opposition Lamuka dénonce la persistance de la corruption. Elle s'est réunie hier à Lubumbashi dans le Haut-Katanga sous la conduite de Moïse Katumbi qui a passé le flambeau à Jean-Pierre Bemba, lequel s'est fait représenter à cette rencontre. Les détails avec Eddy Sango.
Moïse Katumbi a réuni ce qui reste encore des leaders de cette coalition transformée en plateforme politique depuis avril. Martin Fayulu, Adolphe Mouzito et Eve Bazaïba, représentantes de Jean-Pierre Bemba absent, ont dénoncé la persistance de la corruption dans le pays. Ils ont fait le constat de la détérioration des conditions de vie de la population, de l'augmentation des inégalités sociales et de l'insécurité. Les leaders de la plateforme ont par contre exprimé leur engagement à mobiliser le peuple pour la mise en place des réformes institutionnelles, notamment la Cour constitutionnelle et la Commission électorale. La Mouka sera désormais mais dirigé pour 3 mois par Jean-Pierre Bemba, qui prend la place de Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga. Deux de ses fondateurs, Antipas Mbusanya Mwisi et Freddy Matungulu, ont quitté la coalition pour se mettre au service du président Félix Tshisekedi.
Au Soudan, toujours pas de reprise des négociations entre les généraux au pouvoir et les leaders de la contestation, suspendus après la mort de 5 étudiants lors de manifestations à El Obeid dans le centre du pays lundi. Des centaines de lycéens et étudiants ont manifesté hier à Khartoum, la capitale, pour dénoncer l'usage excessif de la force contre les protestataires. Le point avec Abdourahman Dia.
Nous gardons tout le temps le silence et ils nous tuent, s'exclame en colère une lycéenne de 16 ans en uniforme scolaire. Les 5 lycéens d'Al Obeid ont été tués parce qu'ils demandaient des choses essentielles, de la nourriture, de l'eau, de l'électricité, a ajouté la jeune manifestante dans un quartier de Khartoum. Selon l'AFP, les jeunes ont vite été rejoints par d'autres lycéens, scandant ensemble « Le peuple veut se battre pour le droit des martyrs » ou encore « Tuer un étudiant, c'est tuer la nation ». Le mouvement de contestation a accusé les paramilitaires des forces de soutien rapide dirigées par le numéro 2 du conseil militaire, Mohamed Ramdan Daglo, alias Meiti, d'avoir ouvert le feu contre la foule. Les pourparlers prévus hier avec les généraux ont été suspendus. L'UNICEF a appelé les autorités à enquêter et à traduire en justice les auteurs de violences contre des enfants.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
À Afrique de l'Ouest maintenant, au Nigeria, interdiction totale hier du groupe chiite IMN, le mouvement islamique du Nigeria, qualifié récemment d'organisation terroriste par le gouvernement après une vague de manifestations réprimées dans le sang. Les précisions avec Irénée Herman Ungbo.
Toute personne s'engageant ou s'associant de quelque manière que ce soit dans les activités du mouvement islamique du Nigeria sera considérée comme terroriste, ennemi de l'État et comme un élément subversif qui devra comparaître devant la justice, a déclaré Mohamed Adamou, inspecteur général de la police. Toute forme de procession ou de manifestation organisée par le mouvement est désormais illégale et interdite, a-t-il indiqué dans un discours dont l'intégralité a été publiée sur la page Facebook de la police nationale. Nous demandons le soutien du public pour nous aider à identifier les lieux où se trouvent des membres de ce groupe chiite et ceux qui les soutiennent, a-t-il ajouté. La présidence nigériane a annoncé dimanche l'interdiction totale pour terrorisme et activités illégales du mouvement chiite radical après une série de manifestations meurtrières dans la capitale Abuja pour exiger la libération du leader de ce mouvement, Ibrahim Zakzaki, incarcéré depuis 2015.
Afrique de l'Ouest toujours, Mauritanie, le blogueur mauritanien Mohamed Cheikh Ould Nkeïtir a retrouvé la liberté après plus de 5 ans de détention. Il a rejoint le Sénégal voisin, mais on ne sait pas s'il s'agit de sa destination finale, Bagassi Koura.
Reporters sans frontières a annoncé hier la remise en liberté le lundi à l'aube de Mohamed Cheikh Ould Nkeïtir. Son avocate Fatimata Mbaye a confirmé que le blogueur a été relâché. La presse sénégalaise a affirmé qu'il est arrivé au pays de la Teranga sans préciser si c'était sa destination finale ou simplement un transit. Dans son article, le jeune blogueur critiquait l'utilisation de la religion musulmane pour justifier certaines discriminations contre la caste des forgerons. Son texte a été jugé blasphématoire envers le prophète de l'islam. Détenu depuis janvier 2014, il a été condamné à mort pour apostasie. Cette peine a été ramenée en appel à 2 ans de prison en novembre 2017, mais la décision jugée trop clémente avait entraîné des manifestations. Ould Nkeïtir était depuis maintenu au secret. En juin dernier, le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, avait justifié cette situation par la sécurité personnelle du blogueur. Le nouveau président, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, doit prêter serment demain jeudi à Nouakchott.
Politique en Tunisie, l'instant chargé des élections dans le pays a confirmé la date du 15 septembre pour la présidentielle anticipée, rejetant ainsi des appels de partis politiques à repousser cette date annoncée dans la foulée du décès du président Béji Caïd Essebsi. Selon le calendrier électoral décidé par l'instance en question, les candidatures à la présidence doivent être déposées entre le 2 et le 9 août. La campagne électorale aura lieu du 2 au 13 septembre et les résultats préliminaires seront annoncés le 17 septembre. La date du deuxième tour de la présidentielle n'a pas encore été décidée, mais elle ne doit pas dépasser le 3 novembre. Actualité aux États-Unis maintenant, course à la présidence côté opposition démocrate. Les sénateurs progressistes Bernie Sanders et Elizabeth Warren se sont retrouvés mardi soir à Détroit, dans le Michigan, sous le feu de leurs rivaux modérés lors d'un débat entre prétendants à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020. Le compte-rendu de Jean-Roger Bion.
Les deux figures de l'aile gauche du parti défendent des réformes radicales pour battre le président Donald Trump en 2020, mais leurs rivaux ont exprimé leur peur de faire fuir les électeurs indépendants. Avec Bernie Sanders, Elizabeth Warren a défendu la création d'une couverture maladie universelle financée par des fonds publics sans aucun rôle pour les assurances privées, la fin des poursuites pénales pour les migrants entrés clandestinement aux États-Unis ou une couverture médicale pour les sans-papiers. Pourquoi être aussi extrême, s'est insurgé l'ancien parlementaire modéré John Delaney, tandis que le gouverneur du Montana, Steve Bullock, les a même accusés de jouer dans la main de Donald Trump. Pete Buttigieg, maire de South Bend dans l'Indiana, qui à 37 ans a réussi à se hisser à la 5e place dans les sondages avec près de 6% des soutiens démocrates, a tenté de rester au-dessus de la mêlée. Les projecteurs se tourneront ce mercredi vers Joe Biden, 76 ans, et la sénatrice noire Kamala Harris, en 4e position dans les sondages, avec 10,5%, dont la passe d'armes avait marqué le mois dernier le premier débat de la primaire démocrate.
Crise migratoire pour terminer, les 116 migrants encore bloqués sur le Grigoretti, un navire des gardes-côtes italiens, pourront débarquer dans les prochaines heures, après un accord pour les répartir entre 5 pays européens. C'est ce qu'a annoncé le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, ce mercredi sur Facebook. La France, l'Allemagne, le Portugal, le Luxembourg et l'Irlande, plus l'Église catholique, ont accepté de prendre en charge ces migrants sauvés en Méditerranée et bloqués depuis plusieurs jours à bord du Grigoretti dans le port de Catane en Sicile. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.